Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Raconte-moi des salades. Nous allons, pour les deux prochaines émissions, parler d'histoire boulangère, d'histoire pâtissière, de pain, mais aussi de galette des rois, et c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Et petite nouveauté, nous avons William qui ramène sa fraise à partir de la semaine prochaine, que dis-je, dans deux semaines, puisque ce sera la nouvelle émission. Pour devenir le DJ, nous ambiancer sur des sons culinaires et afro-culinaires, dirons-nous, à partir de la prochaine émission, donc. Et nous allons pouvoir écouter... aujourd'hui, deux morceaux qu'il nous a conseillés, que vous découvrirez au long de cette émission.
J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans.
Et bien entendu, pour débuter cette émission, je reviendrai sur la légende racontée aux enfants. Légende, mythe, religieux, plus ou moins, qui nous parle donc des rois mages qui, guidés par une étoile, se rendirent à Bethléem pour rendre hommage à l'enfant Jésus, dans la religion chrétienne donc. De ces trois rois, le premier s'appelait donc Gaspard. On dit qu'il avait le teint clair des Européens et qu'il apportait de l'or. Le second, Melchior, avait la peau brune des gens de Palestine et d'Arabie. Celui-là était porteur d'encens. Le troisième, Balthazar, était couleur de nuit sans lune et ses dents brillaient comme brillent les dents des Africains. Ce dernier offrit à l'enfant Jésus de la myrrhe.
La myrrhe, une gomme résine aromatique produite par l'arbre à myrrhe ayant des propriétés médicinales.
On sait moins ce qui leur advint sur le chemin du retour. Ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient savants en beaucoup de choses. Mais cela n'empêcha pas qu'ils se perdirent, bel et bien, sur ce chemin du retour, n'ayant plus le secours de l'étoile pour les aider. Après avoir erré plusieurs jours dans le désert, à bout de nourriture, à bout d'eau, ils aperçurent une misérable petite cabane devant laquelle se tenaient un couple et deux enfants. Les yeux brillants de faim, les habits raccommodés, ils firent pourtant bon accueil aux mages, les invitèrent à entrer et leur offrirent un peu du peu qu'ils avaient, de l'eau pour se rafraîchir.
« C'est que nous avons faim aussi, un peu de pain fera l'affaire. »
Hélas, nous n'avons plus qu'un peu de farine et du lait, de l'huile et une noisette de beurre. Juste de quoi faire une galette que nous partagerons entre les enfants. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à mourir de faim.
Faites la galette, ma brave femme. La femme obéit. La galette était tout juste suffisante pour une personne. Mais Gaspard, qui avait le teint clair des Européens, plia la pâte en deux. Et la galette doubla en volume. Puis Melchior, le mage à la peau brune des gens de Palestine et d'Arabie, plia de nouveau la pâte en deux. Il y en eut pour quatre. Enfin, Balthazar, le roi à la peau brune, couleur de nuit sans lune, plia encore la pâte en deux. Il y en eut pour huit. Le couple remercia alors chaleureusement les mages. La femme étala la pâte et mit la galette à cuire. Elle était dorée à point. Mais l'homme se gratta la tête, le couteau à la main.
C'est que cette galette est pour huit, et nous sommes sept.
La huitième part est celle du mendiant.
Quel mendiant ?
À ce moment-là, le plus jeune des enfants, un garçon, recracha quelque chose. C'était une bague que Melchior avait glissée, volontairement ou non. L'histoire ne le dit pas. Dans la pâte. L'enfant voulut rendre le bijou. Le mage sourit, ôta la couronne de sa tête et en coiffa l'enfant. Tout enfant est roi. Tel est le message que délivrera un autre enfant, né il y a peu, non loin d'ici. Pour commémorer ce jour, je veux que chaque année on fasse une galette, qu'on n'oublie pas la part du pauvre, qu'on y glisse une fève pour désigner un roi ou une reine, ne serait-ce que pour une journée. Les pauvres gens promirent alors de respecter la volonté des mages. C'est ainsi que naquit la tradition de la galette des rois, qu'elle se répandit et qu'on se la transmit jusqu'à nos jours. Ou du moins, c'est ce qu'on en dit. Ce mythe, cette légende religieuse est celle de la chrétienté. Cependant, on sait que la tradition de la galette des rois est aujourd'hui bien plus culinaire que religieuse. On sait aussi que cette histoire remonte à l'Antiquité romaine, grâce à de nombreux chercheurs, historiens, dont l'une d'entre elles que nous accueillerons tout à l'heure. Et on sait que pendant la fête des Saturnales, qui est une fête païenne, une fête romaine dédiée au dieu Saturne, qui avait lieu à la fin du mois de décembre, au début du mois de janvier, les Romains désignaient un esclave comme le roi d'un jour. C'était une fête qui inversait les rôles. L'heureux esclave roi d'un jour pouvait alors commander à manger tout ce qui lui faisait envie, entre autres privilèges. Les Romains, ce jour-là, dit-on, partageaient aussi un gros gâteau rond doré comme le soleil. Et c'est à la fin du IVe siècle que l'Église interdit ces fêtes païennes et les remplaça par une célébration religieuse. Dès le Ve siècle, l'Église accordit de plus en plus d'importance à cette tradition, qui se tint donc le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier. C'est alors que l'Épiphanie devint une fête chrétienne. Le jour où l'on commémore la visite des trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, dont nous avons parlé un peu plus tôt, qui d'ailleurs n'avaient a priori pas grand-chose de roi, c'était plutôt des astrologues, des scientifiques, des sages, comme on disait, qui étaient venus porter ses présents à l'enfant Jésus. Et pour connaître le vrai du faux et discuter de Galette des Rois, j'ai demandé son avis et son éclairage à Nadine Cretin, historienne spécialiste des coutumes et des fêtes, notamment les fêtes culinaires en France, que nous allons entendre donc son interview dans quelques instants. Mais j'ai également demandé à Maria, qui travaille au Fournil de Barnave, de nous dire ce qu'elle savait sur l'origine de la Galette des Rois, ce qu'elle en pense, d'où viennent les rois, et nous allons écouter tout de suite l'intervention de Maria, suivie de l'interview de Nadine Cretin.
Alors, la galette des rois, moi, il me semble que ça avait un rapport avec le carnaval et la fête des fous. Et du coup, ça devait se passer quelques jours avant Noël, où du coup, on autorisait au Moyen-Âge les serfs, les esclaves, à prendre en quelque sorte la place de leur maître pendant quelques jours, et on inversait les rôles, et ça servait grosso modo à relâcher la pression pour des gens qui étaient esclaves toute l'année. Pendant quelques jours, au moment de la fête des fous, ils avaient le droit de donner des ordres à leur maître, quitte à se faire bastonner trois jours plus tard s'ils avaient dépassé un peu les limites. Et il me semble que c'est à la même époque qu'on cuisait et qu'on partageait la galette, et c'était souvent le seigneur qui offrait la galette à ses serfs et enfin à son peuple en fait.
Merci Maria pour ton éclairage. Et oui, en plus de nous raconter des salades, on se demande parfois si on ne nous roule pas dans la farine avec toutes ces histoires. Et pour compléter ce témoignage, nous allons tout de suite écouter la version de Nadine Cretin.
Alors, l'Épiphanie s'appelle communément le jour des rois. Mais ce n'est pas pour autant que le roi fait ici allusion au roi mage. Les rois mages, en fait, n'ont rien à voir. C'est vrai que l'Épiphanie tient son nom d'un mot grec qui signifie « manifestation ». C'est la manifestation de l'enfant Jésus aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs. Et c'était des mages qui étaient venus en suivant son étoile. Alors, par ailleurs, l'élection d'un roi se retrouvait déjà au moment des Saturnales, où on élisait lors des banquets domestiques, on élisait des rois de fantaisie, un roi de fantaisie qui commandait, qui donnait des gages, etc. Enfin, c'était qui était beaucoup plus sage que ce que le mot maintenant saturnal laisse entendre, évidemment. D'accord. Et puis, les attestations, en fait, autant la fève était déjà connue, on sait par les Grecs, c'était un procédé d'élection des magistrats, donc déjà, c'était connu, mais pas forcément dans un gâteau. En revanche, le roi qu'on élisait au moment des Saturnales, lui, ce n'était pas non plus dans un gâteau qu'on élisait et ni au moyen d'une fève, mais c'était en jouant par un jeu de hasard les osselets ou des dés. Voilà. Les premières attestations concernant la fève dans la galette sont apparues, alors elles sont apparues, la première en 1311, par dans une charte de Robert Damien qui parle d'un gâteau feuillé. Et donc, on élisait un roi de cette façon. C'était la coutume du roi bois. Ensuite, alors, on a des attestations en Provence, par exemple, de moines qui partageaient un gâteau avec une galette au XIVe siècle. Mm-hmm. Et puis d'autres, donc, à partir du XVe, et en particulier, un dessin dans un livre d'heures d'Adélaïde de Savoie en 1570, qui, là, c'est vraiment avec le dessin d'un enfant caché sous la table qui attribue la part. Ah oui. On posait la question, Phébé Dominé, pour qui cette part? Et l'enfant, donc, répondait au hasard à des convives. Mmh. Dans la charte de Robert Damien, il est question d'un gâteau feuillé, entre guillemets. Mmh. On peut imaginer une pâte feuilletée, mais on n'a pas de précision. D'accord. Sur la forme du gâteau. Ensuite, la couronne elle-même et la galette à la frangipane, elles sont beaucoup plus tardives. La couronne, la façon dont c'était une brioche qui était souvent agrémentée de fruits confits, et qui était parfumée à l'eau de fleurs d'oranger, ça, cette couronne est ancienne certainement, mais au début, le dessin qui représente donc le partage de la galette là, dans le livre d'heures dont je parlais, eh bien, c'est un pain. C'est un genre de grand pain. D'accord. Rond que le maître de maison tient sous son épaule et qui s'apprête à couper en tranches. Voilà. Mais donc, la galette avec la pâte feuilletée n'est apparue que plus tard. C'est au moment de l'origine de la pâte d'amande, sans doute, mais on a des attestations au 19e siècle, mais sans doute que c'était un peu plus tôt. Certainement, c'est possible. Mais en tout cas, ça s'est vraiment uniformisé au courant du 19e siècle, enfin en tout cas d'après les livres de recettes qu'on a à la fin du 19e. La fève a toujours avait une signification très particulière, déjà même chez les Grecs, qui élisaient leurs magistrats suivant, on prenait des fèves, mais dans un contenant, est-ce que c'était dans un chapeau, c'est pas sûr. Mais en tout cas, selon la couleur, ça voulait dire quelque chose. C'était un symbole en même temps, qui était un symbole de fécondité, d'immortalité. Par exemple, les Égyptiens disaient que les âmes partaient dans le champ des fèves. Et puis, à Rome, il y avait la coutume des Lemuria, qui étaient des fêtes qui avaient lieu, on jetait par derrière son dos pour purifier la maison, des fèves. La fève avait été investie, enfin, si je puis dire, d'un rôle plus important. En plus, c'est une légumineuse qui apparaît très tôt au printemps, donc une des premières. Enfin, alors c'est pour ça que, en même temps, elle était un peu vénérée, quoi. Mais la fève dans le gâteau, qui pouvait être remplacée par une pièce de monnaie, par exemple, et elle n'est apparue que plus tard. Et la fève en porcelaine est apparue dans les années 1870, on dit 1875 en Saxe, parce que on aurait décidé idée de remplacer par un petit sujet moins digeste cette fève que d'aucuns avalaient volontiers, parce que pour éviter la dépense, parce que celui qui trouvait la fève devait repayer la tournée. Bon, ça c'est une anecdote, je ne suis pas sûre qu'il faille prêter beaucoup d'attention. Évidemment, c'est toujours un symbole porte-bonheur, comme je le disais, qui peut être un poupon. On a dit l'enfant Jésus, mais c'est pas du tout sûr que ce soit l'enfant Jésus. C'est peut-être simplement un symbole de fécondité d'un bébé, ou c'était une couronne, ou c'était plus tard un trèfle à quatre feuilles, le chiffre 13. Enfin, toujours un symbole qui était censé porter bonheur.
Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir.
Le partage de la galette, et c'est parti, cette habitude maintenant est partie effectivement outre-Atlantique. L'Amérique du Sud, qui suit entre guillemets les fêtes espagnoles, pour elle, l'Épiphanie évidemment est une grande fête.
C'est important.
Voilà. Et donc à ce moment-là, la galette maintenant devient connue, mais c'est plus timide qu'en France où elle est devenue vraiment une pâtisserie obligée. Dans le sud de la France, c'est la couronne. Dans la région de Montpellier, on dit même le royaume. C'est une couronne qui est décorée, généralement, comme je disais, de fruits confits. Oui. Mais pas forcément, pas toujours.
Merci Nadine pour cet éclairage historique. Et on en reste là pour le moment, puisque j'ai gardé l'anecdote croustillante de fin d'interview. Dans quelques instants, elle nous vient tout droit de l'Élysée, où... elle siège un autre type de roi. Et puisque à Erdiwa, on n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat, je vous propose d'écouter tout d'abord Who's the King de Joseph Henry. Merci William pour cette très bonne idée.
I got it. I got it.
No more. I'm gonna do. Hey, hey, man, we gotta.
J'ajouterais simplement que tous les ans à l'Élysée, la Confédération des pâtissiers apporte une galette à partager, une galette qui doit faire 1,20 m de diamètre, je crois, et dedans, il n'y a pas de fèves. Évidemment, dans la République, on n'élit pas de roi.
D'accord. Voilà. Ah oui,
c'est depuis la Révolution, ça.
Et maintenant qu'on en connaît un peu plus sur les origines des origines de la galette, ou au moins sur les diverses suppositions, nous allons donc passer à la dernière partie de l'émission. J'ai une question subsidiaire que j'ai posée à des boulangers, au boulanger de Barnave, entre autres, Alex et Maria. Bonjour Alex, Maria. Du coup, on est au fournil de Barnave. Et alors, j'avais une première question à vous poser. C'est est-ce que vous seriez capable et est-ce que vous savez comment on peut reconnaître une galette artisanale d'une galette industrielle? Alex, tu veux démarrer?
Alors, je ne suis pas bien sûr comme ça. Visuellement, je ne suis pas très sûr d'y arriver. Après, je pense que ça doit pouvoir se voir après par rapport aux matières premières qu'ils utilisent, que tout ce qui est cher, genre beurre, poudre d'amande, tout ça, ils en mettent moins. Du coup, c'est moins garni. Du coup, le feuilletage, il est moins développé. Je pense qu'il doit y avoir des... Sur ces choses-là, on doit pouvoir s'en rendre compte. Mais il doit falloir avoir les deux l'une à côté de l'autre pour y arriver. Mais... Voilà.
Ok, il faut avoir les deux ou il faut la goûter, quoi. Maria, t'as une idée complémentaire de la question ?
Eh ben, je pense qu'une galette artisanale sera sans doute moins régulière qu'une galette industrielle. Le problème, c'est que souvent dans les boulangeries, on n'a pas 30 galettes d'exposées. Et du coup, si elles sont pas régulières, ça va être plus difficile à voir. Si on en a 10 sous les yeux, on peut voir des petites irrégularités. Par contre, s'il y en a que 3 ou 4 d'exposées dans une boulangerie artisanale, je sais pas si on va pouvoir s'en rendre compte.
Ok, merci. Bon, bah, du coup, il faudra goûter les galettes pour, pour avoir la réponse. Merci à toutes les personnes que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans le cadre de cette émission. Et pour terminer sur un ton décalé, la galette en février, en effet, c'est pas trop d'actualité. La cerise sur le gâteau de cette émission sera donc une fève dans la galette. Et on va s'écouter un petit ragoût de Memphis. Et oui, on écoute toujours sur les conseils de William, qu'on retrouve la semaine prochaine, King Curtis avec Memphis Soul 2. À la semaine prochaine.
Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of base. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. Place on the burner and bring to a boil. That's it, that's it, that's it right there.
I beat? Well,